Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici donc dans ce dimanche de Pâques, de ces dimanches qui se sont écoulés depuis cette résurrection et qui s'ouvrent vers la fête de l'Ascension, vers ce jeudi de l'Ascension où nous allons méditer un mystère particulier, puisque c'est un être humain, une nature humaine, notre frère, qui va entrer dans une vie différente par rapport à la vie terrestre. Et ce mystère que nous ne méditons pas assez, avec une fête qui passe parfois un peu en second, alors même que la nature humaine dans la vie divine est une révélation, un point culminant de l'espérance et de notre propre désir de bonheur. Alors, pour nous préparer à cette fête de l'Ascension et un peu de loin à la fête de la Pentecôte, nous devons donc passer par cette méditation et nous interroger sur la raison du choix de l'épître de Saint Jacques. Saint Jacques nous demande d'être cohérents dans notre foi, dans ce que nous croyons, dans notre conscience et dans notre morale, et nous parle de la vraie religion. Or, comme je vous l'ai dit, cette vraie religion, actuellement, eh bien, elle est profondément amoindrie. Et il faut le reconnaître franchement. Et ce jeudi de l'Ascension, peu de personnes vont se rendre à la messe, d'autant plus que la coutume chrétienne a fait de cette fête de l'Ascension une messe d'obligation, une messe où ceux qui ont la foi, ceux qui ont connu tous les rites et les coutumes de la foi chrétienne sont obligés de suivre cette coutume d'assister à la messe, et dans la mesure de leur ferveur et de leur disposition, de communier à cette messe. Mais d'où viennent ces rites et ces coutumes? D'où vient cette religion qui actuellement est abandonnée, plus particulièrement en France? Lorsque nous voyons que dans les années 93, il y avait un peu plus de 40% des enfants qui allaient au catéchisme, et en 2016, un peu plus de 17%. Il faut bien se rendre compte qu'en France, 4 enfants sur 5 ne connaîtra pas le Christ et la religion chrétienne. Et donc, c'est d'où l'importance d'ailleurs des écoles chrétiennes et des patronages pour maintenir cette ambiance chrétienne, cette présence du Christ un peu lointaine, mais qui correspond aussi à un désir de connaître le surnaturel, de connaître l'invisible. Quelle est donc cette religion où Jésus nous dit, en tant qu'homme et en tant que Verbe du Père, qu'il quitte ce monde et qu'il va vers son Père? Quelle est donc cette religion qui nous dit à la fois de vivre, d'avoir une vie personnelle et une vie spirituelle sur cette terre, de nous occuper des veuves et des orphelins, de nous occuper des enfants et des personnes âgées, et qui en même temps nous propose de vivre déjà dans une union à Dieu qui ferait que nous pourrions tous être des moines et des moniales, ne pas nous marier et avoir une vie de religieux. C'est très particulier quand on y réfléchit, cette religion chrétienne. Alors, en effet, la vraie religion, nous dit Saint Jacques, c'est le fait de mettre en pratique ce que nous croyons profondément en conscience. Or, en conscience, nous savons bien que nous appartenons à une famille, que nous avons un père et une mère, et que nous avons pu avoir des frères et des sœurs, des cousins, des oncles et des tantes. Je vous donnerai un exemple nouveau. Actuellement, il y a un grand débat au Brésil, parce qu'il y a des peuples, des tout petits peuples en Amazonie qui vivent dans une complète autonomie, au milieu de la forêt amazonienne. 200, 600 personnes qui ont parfois leur propre langage. Et donc, comme ils descendent de ces peuples qui sont passés par l'Asie, par le détroit de Bering, et qui ont peuplé petit à petit les Amériques, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, ces peuples qui sont des nôtres, qui sont nos frères et nos sœurs, ce sont nos ascendants, nos descendants, eh bien, eux qui se posent la question de la vie et de la mort, qui se posent la question de la famille, ils ont fini par organiser leur religion chamanique des esprits, mais aussi ils veulent leur bonheur, comme nous dit Saint Jacques, demandez à Dieu et vous serez exaucés. Et pour l'équilibre de leur petite tribu, ils ont décidé de ne pas trop s'étendre. Et quand il y a trop d'enfants, ils les enterrent vivants. Ou alors, lorsqu'un enfant est malade, ils les enterrent vivants. Ou alors, ils ont aussi une superstition étonnante, c'est que quand il y a des jumeaux, même en très bonne santé, ils les enterrent vivants. C'est très original comme religion. Et aussi, lorsque les personnes sont trop vieilles, ils les tuent. Alors, le gouvernement brésilien, qui n'a pas gardé les religions aztèques et incas qui auraient pu découler de l'Amérique centrale, et qui a reconnu dans la parole des missionnaires l'amour de Dieu et l'amour du prochain, se pose la question de respecter ces belles coutumes religieuses. Et au nom des droits de l'homme, ils se disent, qu'est-ce que nous allons faire ? Est-ce qu'on va s'introduire au milieu de la forêt amazonienne pour leur reprocher de tuer leurs enfants malades, surnuméraires ou jumeaux ? Et c'est une vraie discussion, et des anthropologues et des universitaires disent, nous devons les laisser comme cela, c'est leur équilibre. Mais mon Dieu, n'est-ce pas finalement notre situation? Nous sommes parvenus à un certain équilibre, à une certaine prospérité, et donc nous ne voulons plus trop d'enfants. Depuis que nous avons l'occasion chimique de ne plus trop en avoir, depuis que nous avons organisé l'élimination des enfants, eh bien nous sommes bien. Nous sommes dans nos maisons, nous sommes dans un appartement, et nous n'avons plus d'enfants trisomiques, 95% sont éliminés. Et qu'avons-nous à dire à cette tribu amazonienne? Eh bien, voyez-vous, je tombe dans ce défaut de ce moralisme et de cette réduction de la religion et de la foi à des condamnations morales. Cependant, quand même, il y a quelque chose. Mais en effet, le plus important, c'est notre relation à Dieu, à notre prochain, dans un amour vrai. Et la religion ne consiste pas à avoir le plus d'enfants possible, ne consiste pas à faire un acharnement thérapeutique sur toutes les personnes dans les hôpitaux, mais consiste simplement à accompagner l'autre, celui qui est proche de nous, et d'abord dans notre famille. Et c'est la raison pour laquelle notre société actuellement tourne en rond, au point que, pour des détresses de guerre ou des détresses économiques, Nous accueillons actuellement un très grand nombre de jeunes gens de 20-25 ans qui sont arrachés de leur société, qui sont arrachés de leur village, qui sont arrachés de leur famille et qui viennent ici. Et on ne sait pas trop comment les accueillir, on ne sait pas trop comment les nourrir, comment les soigner, parce qu'il n'y a pas de tissu familial. Et le tissu familial, c'est le tissu social authentique. Donc il y a un déséquilibre qui fait que nous sommes dans une société qui va au plus pressé et qui, dans une sorte de religion abstraite, qui va suivre uniquement là la morale du soin du corps, de la nourriture, du vêtement, mais qui n'a plus cette morale véritable de la relation personnelle avec les autres. Or, la relation personnelle, elle commence entre enfants et parents, avec une conquête d'un amour plus plénier à travers des années d'amour, de présence, de difficultés, de moments où notre liberté, notre indépendance se développe et où nous voulons avoir notre propre vie personnelle, comme lorsque nous voulons être indépendants et autonomes, même vis-à-vis du surnaturel et de l'invisible et de Dieu. Seulement, à un moment ou à un autre, nous comprenons que nous ne sommes pas totalement seuls dans notre existence. Et que même celui, le célibataire endurci comme un prêtre, qui a un bel appartement comme un curé, et qui a sa petite vie et ses petits livres et sa vie tranquille, eh bien, à un moment donné, où il prie, où il prend du temps pour entrer en relation avec Dieu, où il se nécrose complètement comme un célibataire endurci. Et donc, tout homme, toute femme, même s'il n'est pas religieux ou religieuse, moine ou monial, doit ne pas se considérer comme absolument seul au monde. Ne serait-ce que pour sortir et acheter à manger. Ne serait-ce que pour changer de vêtements de temps en temps, grâce à tous ceux qui travaillent pour 3 francs 6 sous au Bangladesh. Alors même que, pendant des siècles, c'était des personnes qui travaillaient près de chez eux, qui faisaient des chaussures, qui faisaient des vêtements. Et ainsi, il y avait un tissu social et les gens avaient du travail. Mais là, nous sommes complètement déséquilibrés et on ne sait plus où on va. Alors, quelle est la réponse de la foi chrétienne? Quelle est la doctrine sociale de l'Église? Quelle est la politique que peuvent faire des catholiques et des chrétiens? Eh bien, elle doit d'abord recommencer par la prière. Parce que si nous sommes uniquement des philanthropes, ça ne servira à rien. Un être humain, il est d'abord à connaître et aimer ce qui l'entoure. D'abord sa famille, sa grande famille ou sa petite famille. Et nous ne pourrons avoir la paix sociale que dans la prière, la relation à d'autres êtres que nous-mêmes, tout seuls dans notre coin. Et cette prière, elle est éclairée par l'incarnation. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, mais parce que la Vierge Marie, elle est celle qui a reçu Dieu. C'est extraordinaire. Et Dieu s'est fait homme. Et Jésus, en tant qu'homme, en tant que Verbe, en tant que pensée éternelle du Père, et en tant qu'homme, nous dit que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas des étincelles électriques. Nous sommes des enfants de Dieu. Et s'il nous parle de son Père, ce n'est pas dans une sorte de monologue pour être un homme solitaire et qui a une relation uniquement à son Père, mais c'est vraiment la relation spirituelle que les anges ont aussi. Car vous vous sentez seul, et pourtant vous avez non seulement Jésus, vous avez Marie, vous avez Joseph, vous avez de nombreux saints à qui parler, vous avez aussi vos défunts. On présume qu'ils sont sauvés, et on leur parle et on leur demande de prier pour nous. Mais on peut aussi leur parler très simplement à nos défunts. On peut parler aussi aux esprits, mais pas aux démons. On peut parler à notre ange gardien. On peut parler au Padre Pio, on peut parler à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants qui nous ont précédés dans la rencontre avec Dieu. Et Dieu a voulu, et j'en terminerai là, Dieu a voulu qu'il y ait une continuité dans la vie après cette vie terrestre que nous connaissons. Et comme signe, il y a l'ascension. Jésus vivant avec de la chair et des os rentre dans cette vie divine. Eh bien nous, nous aurons aussi cette vie. Et c'est pour ça que en ce moment, il y a les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour vous faire sourire. C'est une vertèbre de Sainte Thérèse qui se trouve en ce moment à Notre-Dame des Victoires. Alors ça nous semble un peu particulier, c'est de la piété un peu italienne, un peu latine, nous sommes plus du Nord. Et pourtant, cette vertèbre, elle rejoindra le corps nouveau de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à la résurrection des morts. Le cœur du Padre Pio, puisque le bon Dieu a voulu qu'il ne se décompose pas, eh bien, il sera revivifié très probablement et non pas brûlé. Et il rejoindra la poitrine du corps nouveau du Padre Pio. Et voilà ce qui nous est promis. Et voilà pourquoi la Sainte Église catholique romaine avait rendu obligatoire la fête de l'Ascension à côté des dimanches. Le dimanche, c'est notre espérance, c'est un mort qui ressuscite. L'ascension, c'est une nature humaine qui entre dans la vie divine. Eh bien, voilà notre foi. Voilà la raison pour laquelle nous devons essayer de parler à Dieu le matin, parler à Dieu le soir, à Jésus, à Marie, saluer notre ange gardien, et puis parler à des personnes que nous aimons et qui ne sont plus de la vie terrestre. Voilà la vraie religion, en effet. Et cette religion, elle est au nom de la Sainte Trinité. Et après la fête de la Pentecôte, quand la révélation sera terminée, quand l'Esprit Saint nous aura tout dit des 10 commandements et des mystères d'un Dieu d'amour, eh bien nous allons décliner tout cela à travers toutes les fêtes qui suivront la Pentecôte. Voilà la vraie religion, celle qui nous pousse à la charité vis-à-vis de notre famille, de nos voisins, mais en vérité, non pas dans la démagogie de donner simplement de la nourriture et un vêtement et un logement à n'importe qui, n'importe comment, sans relation personnelle et sans famille. Tout cela, demandons-le à la Vierge Marie, particulièrement dans le chapelet, dans ces mystères du rosaire qui nous disent tant la vraie vie d'une femme, d'une mère, de son fils, de l'histoire sainte d'un Dieu qui s'est fait homme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.